on a imprimé des petits flyers comme ça à donner pour le culte Café Croissant. Donc, je pense que tous, on peut venir aux enseignements, on peut tous venir aussi dans la rue, mais si vous ne pouvez pas, ou si c'est trop cette fois, vous pouvez quand même inviter quelqu'un, un ami qui est en chemin pour le culte Café Croissant. Donc vous voyez que c'est un week-end assez complet et je pense qu'il y en a pour tous et je pense qu'on veut aussi préparer ça dans la prière aussi, que le Seigneur agisse aussi parce qu'il veut agir avec vous. Voilà, il ne veut pas agir avec des spécialistes, il ne veut pas agir avec des orateurs extérieurs, mais il veut agir avec chacun d'entre nous. Alors c'est vrai que j'avais envie de continuer avec ce qui a été partagé. C'est vrai que Patrick t'a déjà dit des bonnes choses, du concret par rapport au livre des Actes. Et j'avais envie de juste lire avec vous ce verset dans le livre des Actes. Il y a plusieurs phrases qui reviennent comme ça, un peu dans ce sens. On va lire ensemble dans Actes au chapitre 9 et au verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Extraordinaire. C'est le cœur même du livre des Actes, c'est cette action de l'Esprit qui assiste l'Église. C'est un mot assez fort d'ailleurs en grec. L'assistance du Saint-Esprit, c'est un nom qui vient du verbe parakaleo. Paraclet, c'est un des noms du Saint-Esprit. Quand on dit que l'Église était assistée par le Saint-Esprit, c'est la même chose que quand Jean dit qu'il va nous envoyer un consolateur, c'est le paraclet. D'ailleurs, dans certaines traductions, c'est pas seulement un consolateur, mais c'est peut-être aussi un avocat, suivant les traductions. Donc c'est cette notion, le Saint-Esprit, c'est celui qui est là pour nous assister. Pour parakaleo, c'est pour vraiment nous exhorter. La consolation, c'est aussi un encouragement dans ce sens-là, pour nous réconforter, pour nous inviter aussi à faire appel. Parce que parakaleo, c'est formé de deux mots. Para, c'est à côté, et kaleo, c'est parler. C'est cette idée aussi de faire appel. Donc c'est ça que le Saint-Esprit fait en nous, en fait. C'est parce qu'il est en nous. Il faut juste le laisser s'exprimer et lui laisser la place. Parce qu'il veut faire, il veut parler à travers nous et il veut être cette action. Et son assistance va nous aider dans tous ces domaines-là. Il va exhorter, il va nous exhorter à aller, il va nous exhorter à parler et il va même être notre défenseur. Parce que ce qui se passe quand on annonce l'Évangile, et c'est pour ça qu'on n'a pas trop envie de l'annoncer, c'est qu'on prend des coups. Et c'est ça qu'on n'a pas toujours envie, parce que même si on le fait bien, avec la meilleure méthode, on va à un moment donné recevoir une opposition. Il y a une opposition qui se lève quand on veut annoncer l'Évangile. Et forcément, là, on a besoin aussi de l'assistance du Saint-Esprit qui va nous être notre avocat, notre défenseur, qui va nous donner les bons mots pour nous sortir de la situation ou qui va nous protéger, qui va nous équiper. Et c'est ça aussi l'activation, le week-end activation, c'est cette idée-là, c'est d'activer ce qui est en nous en fait, de laisser plus de place au Saint-Esprit dans notre vie, comme ça apparaît dans tout le livre des Actes. Et c'est vrai que ce livre des Actes des Apôtres, c'est le nom qu'on lui a donné, et c'est vrai qu'on pourrait l'appeler les Actes du Saint-Esprit, mais c'est normal d'avoir appelé les Actes des Apôtres parce que c'est les apôtres qui sont en action. Et moi, j'aime bien cette idée des actes, parce que parfois, on est en tant que chrétien, on sait beaucoup de choses. Et moi, le premier, j'ai beaucoup de connaissances, mais c'est autre chose de les mettre en action. Hein ? Faire les choses, les actes, bah, c'est plus compliqué. Et je me souviens du message de Daniel qui disait mais c'est facile finalement l'Évangile, c'est simple, mais c'est pas si simple que ça à mettre en pratique. Vous êtes d'accord ? Hein ? Il y a un décalage entre la théorie et la pratique. Parfois, en tant qu'évangélique, on est très bon dans la théorie, on sait beaucoup de choses, mais mettre en pratique, c'est plus difficile. Et parfois, on ne sait pas comment faire. Et je pense que c'est important en tant qu'Église d'apprendre ensemble à comment faire. Parce que c'est dans l'action qu'on apprend. On dit « Ah, je me suis trompé » ou « J'ai fait ci ». Et puis on peut être encouragé. Et en tant qu'Église, nous avons besoin aussi de pratiquer ensemble, d'essayer ensemble. Parfois, on ne sait pas comment faire. On a le Saint-Esprit, on a des choses, mais on se dit, est-ce que je dois faire ci? Est-ce que si je fais ça? Etc., etc. Et je pense que c'est vraiment le projet de ce week-end aussi que nous voulons vivre. Vivre aussi ensemble ces choses-là. Prier déjà pour cela. Tout simplement prier pour recevoir un amour, pour recevoir et ce don, cette réactivation du Saint-Esprit qui va nous conduire. Alors c'est vrai que les actes des apôtres, c'est vraiment, c'est quand on lit ce livre, très souvent on voit que ce livre tourne vraiment autour de deux personnages principaux, que sont Paul et Pierre. D'abord Pierre et après Paul. Il faut savoir que quand on lit la Bible, bien sûr que c'est la parole de Dieu, mais on oublie parfois que c'est des gens qui ont écrit ces livres-là et qui ont eu des projets rédactionnels. Luc, quand il a écrit le livre des Actes, il a eu un projet rédactionnel. Il s'est dit, mais comment je vais présenter ce qui se passe dans cette église primitive où le Saint-Esprit est en train d'activer tout le monde? Et il ne s'est concentré pas sur tout le monde. Il a fait des choix rédactionnel. Il a fait un projet rédactionnel. Et c'est pour ça qu'on dit les actes des apôtres, mais il y en a principalement deux qui ressortent, même si les autres sont cités. Mais si on regarde bien, on voit qu'il y a plus dans les chapitres 1 à 13, c'est peut-être écrit un peu petit, on voit que, surtout moi j'ai plus de lunettes, hein, je ne vois pas très bien de loin. Alors j'espère que vous voyez, mais moi j'arrive à voir, je suis un peu plus proche que vous. On voit que dans le chapitre 1 à 13, c'est plus tourné sur la figure de Pierre. Pierre qui est l'apôtre des Juifs, qui annonce plus l'évangile aux Juifs. Et on voit qu'à partir du chapitre 13, il y a les voyages de Paul, et on voit que c'est plus maintenant l'évangile qui va être annoncé aux non-Juifs. On voit que vraiment Luc a structuré comme ça le livre, et on voit qu'il y a aussi un déplacement géographique. On part de Jérusalem et on finit à Rome au chapitre 28. Donc il y a aussi un projet de se dire que l'auteur va suivre d'abord les actes de Pierre, l'apôtre Pierre, qui vont partir de Jérusalem avec toute une équipe. Et après, on voit que l'évangile est annoncé en Judée, en Samarie. Et après, on voit que d'ailleurs dans les chapitres 1 à 13, il y a la conversion de Saül qui va devenir Paul, par là, à ce moment-là. Et on voit qu'au chapitre 13, on voit que maintenant, il y a les voyages de Paul. On voit que l'évangile, il dépasse le cadre d'Israël. Et on voit qu'il va aller en Turquie, en Asie mineure, dans des provinces romaines. Et que ça termine à Rome, qui était le centre du monde à l'époque, le centre du monde connu, où tout se passait. Et on voit que ça poursuit vraiment ce mouvement de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et il y a aussi un projet rédactionnel de montrer que l'évangile n'est pas que pour les Juifs, mais à un moment donné, il est pour les Juifs, mais il y a ce passage, cette transition qui est absolument bouleversante, parce que Israël était appelé à être la lumière des nations, mais on voit que c'est une minorité qui ont accepté, minorité de juifs, et on voit que cet évangile qui était principalement juif, judaïque, va s'ouvrir aux non-juifs. C'est absolument ce que veut montrer cela. Mais si on réfléchit, et si on regarde dans la tradition chrétienne, tous les apôtres ont fait des voyages missionnaires. Tous les apôtres ont donné leur vie, comme Paul d'ailleurs, et Pierre qui vont mourir, martyrs, pour leur témoignage. Et souvent, on ne connaît pas cette histoire-là, parce que simplement Luc a fait un choix dans ce qu'il voulait présenter. Et on pourrait dire que tous les apôtres ont été activés par le Saint-Esprit. On pourrait dire que tous les apôtres ont été en mouvement, et on ne sait pas toujours cette histoire. Alors, si on regarde un petit peu l'histoire de l'Église, regardez un petit peu les différents apôtres. Tout d'abord, il y a Pierre, qu'on connaît, voilà, qui va finir quand même à Rome. La tradition nous rapporte qu'il termine à Rome. Lui, l'apôtre des Juifs, est devenu aussi un évangéliste parmi les non-Juifs. Et il sera crucifié la tête en bas sous Néron. C'est un peu petit, mais je vous le lis. Hein. André, frère de Pierre, il va aller en Asie mineure et la région de la mer Noire. Il meurt crucifié à Patras sur une croix en X. Jacques le Majeur, fils de Zébédée, lui, il terminera aussi, il ira en Espagne. On sait que Paul voulait aussi aller en Espagne. Il sera décapité à Jérusalem vers l'an 44. Jean, il va aller à Éphèse, c'est le seul qui ne va pas mourir martyr. va mourir de vieillesse et il finira donc à Éphèse, qui est en Turquie. Philippe est allé en Asie mineure, peut-être même en Afrique du Nord, et il a été crucifié aussi. Barthélemy, c'est la tradition qui nous le rapporte, on pense que c'est Nathanaël. Où est-il allé ? En Inde et en Arménie. Vous savez que l'Arménie est le premier pays chrétien au IVe siècle. L'évangile s'est développé par la suite. Il est mort, écorché vif, puis décapité. Matthieu, qui a écrit notre évangile que nous connaissons, était en Perse et en Éthiopie. Tué par l'épée ou la lance pendant sa mission. Thomas, l'apôtre des Indes, qui a annoncé l'évangile jusqu'en Inde. Transpercé par des lances près de, je ne sais pas si je prononce juste, Chennai. Jacques le mineur, Jérusalem, Syrie, voilà, on passe un peu vite. Jude, Mésopotamie, Arménie, Perse, martyrisé, voilà. Simon le zélote, Égypte, Perse et Caucase, martyr aussi. Judas Iscariote, que vous connaissez, qui s'est suicidé après sa trahison avec Jésus, qui a été remplacé par Matthias, Syrie, Cappadoce ou région de Caucase, lapidé puis décapité. Voilà, quel pédigré. Tous les apôtres ont fait leur voyage missionnaire, ont été en mouvement, ont été activés par le Saint-Esprit jusqu'au bout de leur vie et ont donné même leur vie. Et si on regarde un peu une carte pour... c'est difficile de trouver une carte qui résume ça, donc j'ai trouvé ce que j'ai pu. On voit ici donc les différents mouvements depuis Jérusalem, des différents apôtres dans toutes les directions. Voilà. Et ici, on voit aussi, alors on ne voit peut-être pas très bien, mais ici on voit l'Empire romain, on va dire, avec Jérusalem ici. On va ici tout le sud de l'Empire romain. Avec la Grèce et le nord de l'Afrique ici. Et on voit que l'évangile est allé bien au-delà, en fait, et du monde connu d'alors, hein, et a vraiment débordé de l'Empire romain dans des parties ici, à différents endroits. Donc on voit que l'évangile est allé bien au-delà de ce qu'on pourrait dire. Et on pourrait écrire bien des livres, en fait, de ce que Dieu a fait. On n'en a qu'un, c'est les Actes des Apôtres, mais il y en a d'autres. Et aujourd'hui encore, nous sommes appelés à être dans cette activation de l'esprit pour écrire la suite du livre des Actes. Ce n'est pas extraordinaire quand même. Vous faites partie de la suite du livre des Actes. Alors peut-être que Dieu ne vous appelle pas à aller en Inde. Hein. Rassurez-vous, il y a déjà bien des gens à sauver ici. Et dans une Europe qui se déchristianise, il y a bien des gens à sauver. Mais je me suis posé la question, mais comment, à quel moment ça a commencé en fait ce mouvement dans la vie des apôtres qui ne s'est jamais arrêté finalement. Jusqu'à leur mort, ils étaient dans ce mouvement, dans cette annonce de l'évangile, et très loin, parfois très loin de chez eux. Et si on lit le début du livre des Actes, on voit que ça a commencé en fait dans Acte 2. Qu'est-ce qui se passe dans Acte 2 ? Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et c'est l'épisode des langues de feu qu'on connaît de Acte 2 et de tout ce qui se passe. Et j'aimerais relever le verset 14, un peu plus loin. Le verset 14 qui dit « Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Et on connaît le discours de Pierre, qui est un discours assez long, décrit là, qui amène la première moisson de l'Église, qui sont ces 3000 personnes qu'a citées tout à l'heure Patrick. Que s'est-il passé entre le verset 1 et le verset 14 ? Tout simplement, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Et pas seulement les apôtres, mais tous, c'est écrit, tous ceux qui étaient dans la chambre haute ont été remplis. Même Marie, la maman de Jésus, a été remplie du Saint-Esprit. Et peut-être qu'elle n'a pas été une apôtre qui allait loin, mais elle a dû faire une œuvre incroyable aussi autour d'elle, là où Dieu l'avait placée. Et il y a toutes ces personnes qu'on ne cite pas, qui ont été activées par le Saint-Esprit à ce moment-là, des 70 de la chambre haute. Il y en a eu bien d'autres, bien des noms qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais qui ont sans doute fait une des actes extraordinaires parce qu'ils ont été remplis de l'Esprit. Et on voit qu'ils étaient assis, et j'ai mis en rouge, ils étaient assis, et on voit qu'une fois qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, l'auteur inspiré a noté Pierre debout avec les 11. Ils sont assis, ils passent de assis à debout. Et c'est ce qui se passe, et je pense que c'est une métaphore spirituelle de ce qui s'est passé. De assis qu'ils étaient, quand on a été rempli du Saint-Esprit, ça nous met en mouvement, ça nous lève de notre chaise. C'est quelque chose qui nous arrache à notre situation et qui nous amène à faire de personnes ordinaires, de juifs ordinaires du premier siècle, avec tous les défauts qu'ils pouvaient avoir, en faire des personnes extraordinaires. Parce que ce n'est pas eux qui ont fait ça, mais c'est l'Esprit de Dieu en eux qui les a levés et qui a fait cette œuvre dans leur vie. Sans cette activation du Saint-Esprit, sans cette manifestation de l'Esprit qui va se reproduire à plusieurs fois dans le livre des Actes, on voit qu'ils ne sont pas remplis une seule fois, mais ils sont re-remplis. On ne peut pas se dire que ça a été fait une fois, mais c'est arrivé par la suite au chapitre 4, à différents endroits, ils sont remplis à nouveau. Sans cet équipement, sans être remplis à nouveau du Saint-Esprit, ils n'auraient pas pu aller au bout de tout ce que Dieu voulait faire au travers d'eux. Il faut savoir qu'ils ont fait des voyages qui étaient très risqués pour l'époque. Aller en Inde à cette époque-là, ce n'est pas prendre un avion. C'était plein de risques, plein de maladies. Et ils ont pris des risques et Dieu les a protégés. Dieu a été avec eux et ils ont pu aller vraiment jusqu'au bout, donner leur vie, même aller jusqu'à donner leur vie martyre. Il faut quand même pouvoir le faire. Et je ne pense pas que Dieu nous demande à tous d'être des martyrs, mais c'est quand même extraordinaire de voir qu'ils sont allés vraiment au bout du bout parce que des personnes ordinaires ont pu faire ça parce que Dieu était avec eux et a été cette puissance qui les a aidés à traverser ces épreuves et ces difficultés. Et Dieu les a gardés. Mon père me disait toujours, Christian, on est invincible jusqu'à ce qu'on ait fini notre mission. C'est vrai, hein, c'est intéressant de réfléchir comme ça. Quand on est envoyé par Dieu dans ce que Dieu veut qu'on fasse, on est invincible, on est immortel, ceux qui aiment bien les films sur les immortels, voilà, on est immortel jusqu'à ce qu'on ait terminé notre mission. Et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et cette activation, elle a commencé tout simplement là, avec des gens ordinaires, des disciples ordinaires, et qui ont pu faire des choses extraordinaires. J'aimerais relever juste quelque chose qui n'apparaît pas dans le discours de Pierre. Il est dit que Pierre éleva la voix et s'exprima. Il y a une répétition. Et en fait, si on trouve d'autres traductions, il est dit que Pierre se leva avec les 11 apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. Ici, il y a deux verbes qui sont utilisés. Et le deuxième verbe, quand il dit que il éleva la voix et s'exprima, le verbe s'exprimer, en fait, c'est le même verbe qui est dit avant où ils s'exprimèrent en langue. C'est en fait parler de manière inspirée. Donc, il s'est exprimé, quand il est dit qu'ils recevèrent tous le Saint-Esprit en langue de feu, et à tous, ils parlèrent en langue selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, c'est le même mot que quand Pierre se lève et donne un discours intelligible, c'est aussi un discours inspiré. Vous voyez, Dieu peut utiliser le miraculeux, les langues, pour nous édifier, qualifier, faire des choses, mais il peut utiliser aussi notre voix de manière intelligible en étant inspiré et en ayant une autorité qui produit du fruit. Et c'est important de comprendre cette action, cette double action de l'Esprit, parce qu'on a besoin vraiment de tout l'équipement du Seigneur. Et on voit que Pierre se lève d'une voix forte, ils ont traduit ça comme ça, mais c'est exprimé comme ceci. Et ce mot, dans le livre des Actes, il est toujours utilisé pour parler de l'inspiration de Dieu et il n'est utilisé que dans le livre des Actes, ce verbe en grec. Donc c'est intéressant de dire, mais on a besoin, Dieu veut utiliser notre voix humaine, mais il veut la qualifier avec sa puissance et son autorité pour en faire un résultat qu'on n'aurait jamais pensé faire. Et c'est comme ça que Dieu veut travailler avec son Église. Mais il a besoin, bien sûr, que nous, on puisse accepter, comme il a été dit, travailler dans la prière, s'attendre à lui, s'attendre à son action. Alors, Jésus revient, et l'Église n'est pas prête. Elle n'est pas prête à annoncer l'Évangile. Elle n'est pas prête à donner sa vie. Mais bonne nouvelle, si on laisse le Saint-Esprit nous activer à nouveau, nous réactiver, alors nous pourrons accomplir ce dernier mandat. Tous les mouvements de réveil dans toute l'histoire de l'Église avaient cette conscience que Jésus revenait bientôt. L'urgence de son retour est liée à l'action d'évangélisation. Elle nous pousse à dire il y a urgence et il y a besoin. Et aujourd'hui, plus que jamais. Paul vivait dans l'assurance, avec cette assurance que Jésus revenait bientôt. C'est pour ça qu'il fait certaines recommandations, le fait de ne pas se marier, parce qu'il est dans cette conscience eschatologique que Jésus revient bientôt. C'est pour ça qu'il dit voilà, que celui qui n'est pas lié ne se lie pas, mais que celui qui est déjà lié se marie. Voilà par rapport à comprendre aussi ces textes. Donc je nous invite à être cette église de la fin des temps qui est debout. Amen. Soyons une église debout, pas assis. Si on se sent assis, sachons que le Saint-Esprit peut nous lever. C'est merveilleux. Et j'aimerais qu'on puisse se lever pour prendre un chant ensemble qui, pour moi, m'a béni cette semaine. Je suis tombé sur ce chant qui dit, vous connaissez ce chant que nos aînés chantaient ? « Debout, sainte cohorte ». Ah. Vous savez qu'il est dans le J'aime 2, j'étais étonné. Et j'aimerais juste, asseyez-vous, je vais juste vous lire le chant et après on va se lever, on va se mettre debout, de manière symbolique mais quelque part spirituelle aussi, en disant « Seigneur, je veux être debout pour toi ». D'ailleurs, la version originale de ce chant, c'est « Stand up for Jesus ». Je vous lis les paroles. «